Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire du jubi et la mise au point. Vous pouvez également écouter notre programme culturel dans la rubrique « Le magazine culturel » et « L'Indonésie en couleur ». Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons de dangdut. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Corée du Sud ont établi la coopération dans le domaine de l'avion de chasse. L'Indonésie a demandé aux autres pays à ne pas augmenter la tension dans la mer de Chine méridionale. BKPM supervise l'investissement de l'automobile de la Chine. Le ministère du Commerce a convenu d'emporter le riz du Pakistan. Le tourisme villageois attire les touristes français à Bali. La langue indonésienne a le potentiel d'être la langue de l'ASEAN. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement de l'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère de la Défense, a signé l'accord de partage des coûts, ou CSA, avec l'industrie aérospatiale de la Corée, ou KAI, comme la marque de début de la mise en œuvre de la deuxième phase du développement du programme de l'avion de chasse entre l'Indonésie et la Corée du Sud. Le ministre indonésien de la Défense, M. Riamizar Riakudu, a expliqué au ministère de la Défense jeudi, comme rapporté par Antara, qu'avec la signature de CSA, il a demandé aux deux parties de montrer leur sérieux et l'engagement en conformité avec l'accord qui a été signé. La signature de contrat de CSA entre le directeur général de la défense potentielle, Timbul Siahaan, et le président en tant également le PDG de KIA, Ha Sung-yong. Le ministre Riamizar Riakudu a ajouté qu'en outre, l'accord de cession de travail a été signé par le président directeur de PT Dirgantara Indonesia, M. Budi Santoso, et le PDG de KIA, témoigné par le ministre indonésien de la Défense de la République d'Indonésie et le ministre de la Défense du programme d'administration de l'acquisition de la République de la Corée du Sud. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a demandé à tous les pays amis à maintenir la tranquillité dans la région de la mer de Chine méridionale. Lors d'une conférence de presse devant les ambassadeurs des pays amis et les dirigeants des organisations internationales jeudi à Jakarta, Retno Marsudi a averti d'autres pays à ne pas prendre des mesures qui provoqueront des tensions dans la mer de Chine méridionale. Selon lui, dans la région près de l'Indonésie, la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale est très importante. L'Indonésie continuera à s'efforcer à terminer des directives internes. Elle a ajouté, comme un pays qui n'a pas eu de l'intérêt dans le conflit, l'Indonésie s'efforce toujours à résoudre le problème pacifiquement des pays qui sont encore en conflit. Le Conseil de la coordination de l'investissement, BKPM, supervise activement la réalisation de l'investissement d'une entreprise automobile de la République populaire de Chine. Cette mesure est prise pour augmenter le montant des investissements afin d'accélérer la croissance économique dans le pays. Cela est marqué par une réunion de chef de BKPM, M. Franky Sibarani, avec les directeurs des entreprises chinoises qui investissent à Tikarang, l'ouest de Java. Cette réunion est une tentative de BKPM pour faciliter certaines entreprises liées à leur projet de réaliser leur investissement en Indonésie. Franky Sibarani, dans sa déclaration écrite, a expliqué jeudi à Jakarta que les investissements de l'entreprise chinoise auront fourni un impact positif sur la croissance économique indonésienne, entre autres sous la forme de l'emploi et de fournir un sentiment d'optimisme à d'autres investisseurs chinois à investir en Indonésie. Le ministre du Commerce Thomas Limbong a signé un protocole d'accord avec le gouvernement pakistanais pour importer du riz. La signature du protocole d'entente est faite entre le gouvernement à gouvernement et pour la suite, l'agence de la logistique Bulog mènera l'inspection et la vérification. Le ministre Thomas Limbong, mercredi à Jakarta, cité par Republika, a déclaré que Bulog était en train d'étudier et d'organiser les techniques détails de stock de riz au Pakistan. En outre, selon le ministre, cette fois le gouvernement s'efforce à signer un protocole d'accord avec le gouvernement indien. Parce que ce pays est le plus grand exportateur de riz dans le monde, atteignant 4 milliards de dollars américains par an. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les sites touristiques qui existent dans les zones rurales peuvent être l'une des principales attractions touristiques pour les touristes étrangers, notamment de la France. Mais il faut être soutenu par la propreté, la sécurité et l'environnement local. L'un des objets touristiques qui sont en grande demande est le marché traditionnel, tel que le marché Payangan, et visiter des écoles dans les zones rurales, a déclaré l'observateur de tourisme de la culture locale, Dewa Rai Budiasa, jeudi à Denpasar, Bali. Les jeunes de la France qui ont passé les vacances à Bali ont regardé la danse balinaise. En outre, ils ont visité également les villages dans cette ville. Le conseiller de la coopération culturelle ou l'attaché culturel de l'ambassade française à Jakarta, Marc Piton, a visité Bali récemment, entre autres comme le moyen de surveiller la visite des touristes français à Bali. Selon les données du Bureau de tourisme de Bali, le nombre de touristes de la France qui ont visité Bali pendant de janvier jusqu'au novembre 2015 a atteint plus de 115 000 personnes. L'expert linguistique de l'Université d'État de Surabaya, Dr. Suhartono, estime la langue indonésienne a le potentiel de devenir la langue de l'ASEAN à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. Selon Suhartono, il y a deux langues qui peuvent devenir la langue de l'ASEAN, à savoir l'Indonésien et le Malais. Mais selon lui, l'Indonésie est le plus grand potentiel que la langue malaise car il y a au moins quatre arguments scientifiques. Les quatre arguments selon Suhartono et l'Indonésie avaient été étudiés dans de nombreux pays. Elle est facile à apprendre, le taux de développement est fantastique et la partie de vocabulaire l'Indonésien est également existe dans la langue du pays de l'ASEAN. La différence est la distribution l'Indonésien inégale comme la langue malaise en Malaisie, Brunei Darussalam, le sud de la Thaïlande et le sud des Philippines. La langue indonésienne en Indonésie atteint 60% utilisateurs au niveau de l'ASEAN. Le recteur de l'Université d'État de Surabaya, professeur Warsono, soutient les efforts du gouvernement de négocier avec les pays de l'ASEAN afin que l'Indonésien puisse devenir la langue de l'ASEAN. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
troisième antenne. Pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et pour le titre, les exécutions en Arabie Saoudite provoquent de nouvelles tensions avec l'Iran. Les nouvelles tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite apparaissent après l'exécution du chef religieux chiite, le Cheikh Al-Nimr, le samedi. L'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après que des manifestants iraniens ont attaqué des représentations diplomatiques saoudiennes à Téhéran. Al-Nimr a été exécuté avec 46 autres condamnés à mort, y compris des membres d'Al-Qaïda, soupçonnés d'incitation à la violence contre la police. L'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux géants du pétrole du Moyen-Orient, ont été en concurrence depuis longtemps pour influencer idéologique entre les sunnites que les chiites dans cette région. La guerre d'influence entre les deux pays est évidente dans le conflit syrien et le Yémen. La guerre en Syrie est aussi transparente, montre le soutien de deux grandes nations. L'Amérique soutient l'Arabie Saoudite et l'expression de préoccupation est venue de différents pays. Ils sont préoccupés par la propagation du conflit sectaire même jusqu'à d'autres régions. La rupture des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre autres, met en danger les efforts de la coalition internationale pour concilier la Syrie. Washington, via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, John Kirby, a exhorté les deux pays à prendre des mesures pour désamorcer les tensions. Pendant ce temps, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré lundi que Moscou était préoccupé par l'escalade des tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La Russie a dit qu'elle était prête à devenir un médiateur pour les deux pays pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Le gouvernement de Tunisie, par le ministère des Affaires étrangères, a également exprimé sa préoccupation sur la détérioration des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. En outre, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, cherchera la meilleure solution en communiquant avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Kristewa Nasir, a déclaré à Tempo récemment que le gouvernement indonésien a appelé toutes les parties à éviter les actions qui peuvent provoquer l'escalade de la situation et peut mettre en danger la stabilité et la sécurité de la région. L'exécution de l'imam chiite a provoqué la colère des chiites de la région. Mais l'exécution de dizaines de membres d'Al-Qaïda dans le même temps donne aussi un message que la violence commise par les sunnites ne peut pas être tolérée dans ce pays. Ce fait peut être considéré pour éliminer les soupçons sectaires et de réaliser par la force. La famille de Nimr al-Nimr a appelé la communauté chiite pour exprimer la déception par des moyens pacifiques. Ainsi, les pays du Moyen-Orient peuvent se concentrer contre l'interférence régionale réelle, c'est ISIS. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, on va écouter maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec les événements du 8 janvier 1912. Le Congrès national africain a été fondé. Le Congrès national africain est un parti politique sud-africain ayant le pouvoir en Afrique du Sud après avoir gagné une majorité en mai 1994. Le parti a été fondé le 8 janvier 1912 à Bloemfontein pour protéger les droits des Noirs. Certains fondateurs sont Albert Luthuli et John Doop, le premier président de l'ANC. Jusqu'en 1923, le parti a appelé le Congrès national indigène sud-africain. Le soutien pour le parti a été réduit dans les élections de 1999 et le soutien accru aux élections de 2004. Chers auditeurs, nous avons songé à l'événement du 8 janvier 1926. Abdul Aziz bin Saoud est devenu le roi de Hejaz et de renommer la zone d'être l'Arabie Saoudite. Abdul Aziz al-Saoud est le premier roi de l'Arabie Saoudite. Il est également connu sous le nom de Ibn Saoud. En 1890, lors de 10 ans, Ibn Saoud a suivi sa famille en exil au Koweït après avoir été battu par la dynastie Rosidi, à ce moment Nejd. En 1901, à l'âge de 22 ans, Ibn Saoud a remplacé son père comme chef de la famille de la dynastie Saoud avec le titre Sultan du Nejd. Il a ensuite commencé une campagne pour récupérer des terres de la dynastie Rachidi dans la région qui est maintenant l'Arabie Saoudite. En 1902, lui, avec la troupe de sa famille et ses frères, ont réussi à maîtriser Riyad. En 1912, Ibn Saoud a réussi à maîtriser Nejd avec l'aide des forces wahhabis sous la direction de Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab et avec l'aide des Britanniques. En 1922, la dynastie Saoud a battu la dynastie Rachidi et a terminé la domination de la dynastie Rachidi dans le pays arabe. Le 8 janvier 1926, Abdul Aziz bin Saoud est devenu le roi de Hejaz et change le nom en Arabie Saoudite. Chers amis, nous finissons le programme de l'histoire d'aujourd'hui avec l'accident de Cake World qui a tué 47 personnes. Le vol 92 de British Mainland était le Boeing 737 qui s'est écrasé à Cake World, en Angleterre. L'avion s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport en raison d'une panne de moteur. Les événements qui ont eu lieu le 8 janvier 1989 ont tué 47 passagers et 79 autres ont blessé. L'événement est maintenant reconnu comme la catastrophe aérienne de Cake World. Chers amis de l'antenne, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sixième longtemps, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre « La fin du dualisme de l'autorité de la gestion de Batam ». Le président Joko Widodo, dans une réunion à huis clos au bureau présidentiel Jakarta, mardi 5 janvier, a ordonné à CZ d'élaborer des options qui peuvent être prises pour mettre fin à la dualité de l'autorité de gestion des zones de libre-échange à Batam, Bintan et Karimun. Le président ne veut pas le dualisme de l'autorité prolongée qui cause les doutes des investisseurs à y investir. Du point de vue juridique, le président a demandé à faire l'harmonisation de la législation donnant l'autorité ferme et claire entre le gouvernement local et le gestionnaire de la zone, l'agence d'exploitation de Batam. Le président avoue des aspects juridiques. Il y avait la question de la législation de libre-échange et du port franc dans la zone de Batam qui ne sont pas autorités et efficaces dans le champ. Les dispositions contenues dans la loi numéro 36 de l'an 2000, junto la loi numéro 44 de 2007, est la base de l'agence de la gestion de cette zone pour effectuer leurs fonctions et pouvoirs. D'autre part, il y a l'autorité des gouvernements locaux à Batam qui se réfère à la loi numéro 23/2014. Avec le dualisme de la législation et de l'autorité, le président Jokowi a rappelé que le dualisme de l'autorité dans la régulation foncière et de la fonction des autres autorités, à savoir entre la municipalité de Batam avec BP Batam, où tous les deux utilisent chaque la législation, doit être se terminer. Lié à dualisme de réglementation et des autorités réglementaires, la proposition de dissolution de l'agence de concession ou BP Batam avait soulevé. Le ministre coordinateur de l'économie, Darmin Nasution, a admis qu'il y avait cette proposition, mais pas discutée à la réunion. Ainsi, le gouvernement n'a pas encore pris une décision concernant la proposition de la dissolution de BP Batam. Le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, a dit que le président a demandé de préparer au moins deux options pour résoudre le double emploi ou le soufflement de l'autorité et BP Batam et la municipalité de Batam. Les études se poursuivent à faire, y compris demander l'entrée du milieu universitaire. Pendant ce temps, à Batam, le directeur de la promotion de l'investissement de BP Batam, pour nommer Andy Antono, a dit « La question de la dualité de l'autorité peut être résolue depuis longtemps. La façon est de publier immédiatement des règlements gouvernementaux qui arrangent strictement la synchronisation et la zone de travail de BP Batam et la municipalité de Batam. » Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
Le gouvernement de l'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère de la Défense, a signé l'accord de partage des coûts, ou CSA, avec l'industrie aérospatiale de la Corée, ou KAI, comme la marque de début de la mise en œuvre de la deuxième phase de développement du programme de l'avion de chasse entre l'Indonésie et la Corée du Sud. Le ministre indonésien de la Défense, M. Riamizar Triakudu, a expliqué au ministère de la Défense jeudi, comme rapporté par Antara, qu'avec la signature de CSA, il a demandé aux deux parties de montrer leur sérieux et l'engagement en conformité avec l'accord qui a été signé. La signature de contrat de CSA entre le directeur général de la défense potentielle, Timbul Siahaan, et le président en tant également le PDG de KIA, Ha Sung-yong. Le ministre Riamizar Triakudu a ajouté qu'en outre, l'accord de cession de travail a été signé par le président directeur de PT Dirgantara Indonesia, M. Budi Santoso, et le PDG de KIA, témoigné par le ministre indonésien de la Défense de la République d'Indonésie et le ministre de la Défense du programme d'administration de l'acquisition de la République de la Corée du Sud. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a demandé à tous les pays amis à maintenir la tranquillité dans la région de la mer de Chine méridionale. Lors d'une conférence de presse devant les ambassadeurs des pays amis et les dirigeants des organisations internationales jeudi à Jakarta, Retno Marsudi a averti d'autres pays à ne pas prendre des mesures qui provoqueront des tensions dans la mer de Chine méridionale. Selon lui, dans la région près de l'Indonésie, la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale est très importante. L'Indonésie continuera à s'efforcer à terminer des directives internes. Elle a ajouté, comme un pays qui n'a pas eu de l'intérêt dans le conflit, l'Indonésie s'efforce toujours à résoudre le problème pacifiquement des pays qui sont encore en conflit. Le Conseil de la coordination de l'investissement, BKPM, supervise activement la réalisation de l'investissement d'une entreprise automobile de la République populaire de Chine. Cette mesure est prise pour augmenter le montant des investissements afin d'accélérer la croissance économique dans le pays. Cela est marqué par une réunion de chef de BKPM, M. Franky Sibarani, avec les directeurs des entreprises chinoises qui investissent à Cikarang, l'ouest de Java. Cette réunion est une tentative de BKPM pour faciliter certaines entreprises liées à leur projet de réaliser leur investissement en Indonésie. Frankie Sibarani, dans sa déclaration écrite, a expliqué jeudi à Jakarta que les investissements de l'entreprise chinoise auront fourni un impact positif sur la croissance économique indonésienne, entre autres sous la forme de l'emploi et de fournir un sentiment d'optimisme à d'autres investisseurs chinois à investir en Indonésie. Le ministre du Commerce Thomas Limbong a signé un protocole d'accord avec le gouvernement pakistanais pour importer du riz. La signature du protocole d'entente est faite entre le gouvernement à gouvernement et pour la suite, l'agence de la logistique Bulog menera l'inspection et la vérification. Le ministre Thomas Limbong, mercredi à Jakarta, cité par Republika, a déclaré que Bulog était en train d'étudier et d'organiser les techniques détail de stock de riz au Pakistan. En outre, selon le ministre, cette fois le gouvernement s'efforce à signer un protocole d'accord avec le gouvernement indien. Parce que ce pays est le plus grand exportateur de riz dans le monde, atteignant 4 milliards de dollars américains par an. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les sites touristiques qui existent dans les zones rurales peuvent être l'une des principales attractions touristiques pour les touristes étrangers, notamment de la France. Mais il faut être soutenu par la propreté, la sécurité et l'environnement local. L'un des objets touristiques qui sont en grande demande est le marché traditionnel, tel que le marché Payangan, et visiter des écoles dans les zones rurales, a déclaré l'observateur de tourisme de la culture locale, Dewa Rai Budiasa, jeudi à Denpasar, Bali. Les jeunes de la France qui ont passé les vacances à Bali ont regardé la danse balinaise. En outre, ils ont visité également l'île village dans cette ville. Le conseiller de la coopération culturelle ou l'attaché culturel de l'ambassade française à Jakarta, Marc Piton, a visité Bali récemment, entre autres comme le moyen de surveiller la visite des touristes français à Bali. Selon les données du Bureau de tourisme de Bali, le nombre de touristes de la France qui ont visité Bali pendant de janvier jusqu'au novembre 2015 a atteint plus de 115 000 personnes. L'expert linguistique de l'Université d'État de Surabaya, Dr. Suhartono, estime la langue indonésienne a le potentiel de devenir la langue de l'ASEAN à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. Selon Suhartono, il y a deux langues qui peuvent devenir la langue de l'ASEAN, à savoir l'indonésien et le malais. Mais selon lui, l'indonésien est le plus grand potentiel que la langue malaise, car il y a au moins quatre arguments scientifiques. Les quatre arguments selon Suhartono et l'indonésien avaient été étudiés dans de nombreux pays. Elle est facile à apprendre, le taux de développement est fantastique et la partie de vocabulaire l'indonésien est également existe dans la langue du pays de l'ASEAN. La différence est la distribution l'indonésien inégale comme la langue malaise en Malaisie, Brunei Darussalam, le sud de la Thaïlande et le sud des Philippines. La langue indonésienne en Indonésie atteint 60% utilisateurs au niveau de l'ASEAN. Le recteur de l'Université d'État de Surabaya, professeur Warsono, soutient les efforts du gouvernement de négocier avec les pays de l'ASEAN afin que l'indonésien puisse devenir la langue de l'ASEAN. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs, nous nous rencontrons à nouveau dans la rubrique culturelle. Cette fois, nous vous invitons à voyager dans la province de Nusa Tenggara Est. Alors, restez toujours avec nous. Le parc national de Komodo est l'une des destinations touristiques les plus populaires de la province de Nusa Tenggara Est. Dans ce parc national vivent des animaux rares en voie de disparition, Komodo. En raison de l'unicité et de rareté, le parc national de Komodo a été déclaré comme site de patrimoine mondial et la réserve de la biosphère par l'UNESCO en 1986. En réalité, le parc couvre trois principales îles, telles que l'île Komodo, Rinca et Padar, ainsi que beaucoup d'autres petites îles qui ont de la beauté de la terre et la mer. Si vous visitez le parc national de Komodo, donnez aussi le temps de visiter l'une des petites îles qui est aussi belle. Son nom est l'île Laba, qui est aussi connue sous le nom Gili Laba. Gili Laba est une petite île qui se trouve à proximité de l'île Komodo. Avec le voyage seulement moins d'une heure de l'île Komodo, depuis le port de Labuan Bajo sur l'île Flores, il faut beaucoup plus de temps à arriver à Gili Laba, à savoir 4 heures de voyage en bateau. Pour visiter Labuan Bajo, vous pouvez prendre un vol de Denpasar Bali. De Labuan Bajo, vous pouvez louer un bateau vers Gili Laba avec le prix de location ₹1 million par jour. Gili Laba présente la belle vue panoramique sur la mer Flores à partir de sa colline. Lorsque vous arrivez à Gili Laba, le sable blanc et les vues de l'eau de mer vous salueront tout de suite. L'île est dominée par de vertes collines de savane pendant la saison des pluies et deviennent jaunes lors de la saison sèche. Toutes les personnes qui viennent ici profiteront certainement de toute la beauté des paysages naturels. Vous pouvez tout simplement profiter de la beauté des sous-marins avec la plongée ou prendre le soleil sur la plage de sable blanc. En outre, vous pouvez également faire la randonnée pédestre au sommet de la colline offrant la vue magnifique. Pour la randonnée pédestre au sommet, on a besoin de mental et de physique assez forte parce que la roue monte fortement jusqu'à l'inclination de 70 degrés. Pour atteindre le sommet de la colline, cela prend le temps environ 30 à 45 minutes. Bien qu'on soit fatigué, après l'arrivée au sommet, la fatigue disparaîtra soudainement grâce à la beauté naturelle de l'île Flores du sommet de la colline de Gili Laba. Sur le sommet de cette colline, beaucoup de touristes attendent au coucher du soleil. Parce que le coucher du soleil était magnifique d'être vu à partir du sommet de cette colline. Pour atteindre le sommet de cette colline, on vous a conseillé d'apporter des aliments et l'eau potable suffisante, car il n'y a pas de restaurant dans cet endroit. Il est également recommandé d'utiliser des sandales de montagne et apporter leur propre équipement de plongée. Chers auditeurs, c'était la rubrique du magazine culturel pour aujourd'hui, ayant le sujet Gili Laba. Nous nous retrouverons demain avec d'autres sujets intéressants.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs dans le monde entier. Voici l'Indonésie en couleurs et en pour titre, l'unicité de Rafflesia Arnoldi. Rafflesia arnoldi ou lotus géant a été découverte en 1818 dans les forêts tropicales de Sumatra par un guide qui travaille à Dr. Joseph Arnold qui suit les expéditions de Thomas Stanford Raffles. Alors que cette plante a été nommée d'après son histoire de découvreur, à savoir la fusion entre Raffles et Arnold. Rafflesia est l'identité de la province de Bengkulu et comme l'une des rares fleurs de trois autres fleurs nationales indonésiennes, à savoir le jasmin blanc et l'orchidée-lune, basée sur le décret présidentiel numéro 4 de 1993 sur la faune et la fleur nationale. Cette plante peut pousser seulement s'il y a une plante hôte, à savoir la famille Liana SP. Rafflesia arnoldi pousse beaucoup dans la forêt primaire et n'a pas subi de labourage de sol. Rafflesia arnoldi n'a pas de feuilles et de tiges qui rend difficile aussi pour être classée dans les plantes supérieures. Rafflesia arnoldi peut être dit les grandes plantes parce que ces plantes ont seulement des fleurs mais ne peuvent produire des graines. À la clôture de 2007, la fleur rare Rafflesia arnoldi a commencé à entrer dans la saison de floraison. Rafflesia arnoldi a les organes reproducteurs, à savoir les étamines et des pistils, situés dans le centre de la base de la fleur en forme de coupe comme jarre. Le processus de pollinisation de Rafflesia, qui est aidé par les insectes, attire à l'odeur urticante des fleurs. Les bourgeons floraux sont formés le long d'un marge de tige avec la période de croissance de la fleur qui prend jusqu'à 9 mois et la période de floraison d'environ 5 à 7 jours, puis la fleur de Rafflesia va être fanée et mourir. Le parc national de Bukit Barisan Selatan a été désigné comme un centre pour la conservation de ces plantes. Jusqu'à présent, la fleur Rafflesia n'a pas réussi à reproduire en dehors de leur habitat naturel. D'environ 30 types de Rafflesia dans le monde, une seule espèce qui est considérée d'être menacée, à savoir Rafflesia magnifica, qui pousse aux Philippines. Un type de Rafflesia qui a pu pousser à l'extérieur de son habitat est Rafflesia lotus. Bien qu'il ne mène pas directement la conservation envers Rafflesia arnoldi, les efforts de conservation de l'habitat faits par WWF Indonesia dans le parc national de Bukit Barisan Selatan à Lampung et Bengkulu pourraient soutenir la préservation de cette rare faune. En collaboration avec divers partenaires concernés, le WWF continue également de renforcer la sensibilisation et la préoccupation de la communauté de maintenir et de préserver cette plante unique indonésienne. Serviteur, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction et aujourd'hui, vous allez écouter des chansons de Dangdut.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine musical. Nous avons déjà sélectionné des chansons de Dangdut chantées par Dewi Persik. Elle est l'une des chanteuses de Dangdut étant succès dans l'industrie de musique indonésienne. Elle est également une actrice de film. Bon, on va écouter la première chanson de Dewi Persik intitulée Akulah Si Cantik. Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson de Dangdut chantée par Dewi Persik. Elle est donc le vrai nom est Dewi Moria Agung et souvent appelée DP pour faciliter le public de se souvenir son nom. Elle est née à Jember, Java Est le 18 décembre 1985. En 2006, DP était très célèbre après avoir joué dans le cinéma électronique intitulé Mimpi Manis ou Beau Rêve et après avoir sorti le single Beau Rêve. En 2009, DP a joué également quelques cinémas électroniques, entre autres Laila. En 2010, Dewi Persik a joué dans un film intitulé Invaded. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Dewi Persik intitulées Vedette. Vous écoutez toujours la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans le programme musical. Et cette fois, nous présentons des chansons de dangdut chantées par Dewi Persik. En 2010, elle a été recrutée par la République Cinta Management à partir de Ahmad Dhani. Le premier accord de coopération a été montré au public à travers sa chanson intitulée « Créature de Dieu la plus sexy ». Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, on va écouter les deux dernières chansons intitulées « Ketahuan » et « Mabuk lagi ». Merci à tous et à bientôt.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Lagi, aku lagi.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.